Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Un nouveau contre-histoire, un tout nouveau contre-histoire. En 2021, à l'Ibis Clichy-Batignolles, comme en 2018 à la Gare du Nord, après des grèves illimitées, des femmes racisées ont remporté la victoire sur leurs employeurs. Ces ouvrières qui font partie d'une force de travail racisée et en grande majorité féminine, exerçant des métiers sous-qualifiés et donc sous-payés, travaillent au péril de leur santé, le plus souvent à temps partiel, à l'aube ou le soir, quand les bureaux, les hôpitaux, les universités, centres commerciaux, aéroports et gares se sont vidés, et dans les chambres d'hôtel, quand les clients sont partis. Nettoyer le monde. Des milliards de femmes s'en chargent chaque jour, inlassablement. Sans leur travail, des millions d'employés et agents du capital, de l'État, de l'armée, des institutions culturelles, artistiques, scientifiques, ne pourraient pas occuper leur bureau, manger dans leur cantine, tenir leurs réunions, prendre leurs décisions dans des espaces propres, ou corbeille à papier, table, chaise, fauteuil, sol, toilette, restaurant, ont été nettoyés et mis à leur disposition. Ce travail indispensable au fonctionnement de toute société doit rester invisible, Il ne faut pas que nous soyons conscients que le monde où nous circulons est nettoyé par des femmes racisées et surexploitées. D'une part, ce travail est considéré comme relevant de ce que les femmes doivent accomplir, sans se plaindre, depuis des siècles. Le travail féminin de soins et de nettoyage constitue un travail gratuit. D'autre part, le capitalisme fabrique inévitablement du travail invisible et des vies jetables. L'industrie du nettoyage est une industrie dangereuse pour la santé, partout et pour toutes celles et ceux qui y travaillent. Sur ces vies précarisées, usantes pour le corps, ces vies mises en danger, reposent celles confortables des classes moyennes et le monde des puissants. La victoire des ouvrières de la Gare du Nord et de l'Ibis Batignolles est significative, parce qu'elle met en lumière l'existence d'une industrie où se combinent racialisation, féminisation, exploitation, mise en danger de la santé, invisibilité, sous-qualification, bas salaire, violence et harcèlement sexuel et sexiste. La page que je viens de vous lire débute le livre « Un féminisme décolonial » de Françoise Vergès, paru aux éditions de La Fabrique. Françoise Vergès, une très grande dame, d'une simplicité émouvante, comme toutes les femmes qu'elle représente et qu'elle défend. La seule personne dont j'ai attendu dans une longue file l'autographe discret sur son livre retentissant. Alors que j'ai toujours trouvé ridicule la course aux autographes. Françoise Vergès, on la verrait bien au ministère des droits de la femme. Avançons un peu dans l'histoire. Ce 20 juillet, la nouvelle députée Rachel Keke de LFI a interpellé tout l'hémicycle avec ces mots. Qui a déjà touché 800 euros par mois ? Par mois, je vous ai pas dit par jour. Vous ne savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand on vous demande une augmentation de salaire, vous parlez. Vous n'avez rien à faire ici. Vous méprisez les métiers essentiels. Vous méprisez ceux qui servent la France. Quand vous arrivez dans les restaurants pour manger, quand vous allez au Monoprix, vous êtes heureux. Réfléchissez. Voilà les mots de Rachel Keke. Voilà un petit morceau de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948 qui nous rappelle « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Alors faisons un rêve pour nous aider à tenir le choc de la réalité de 2022. En 2016, j'avais déjà suggéré à vos espoirs secrets quelques candidats et candidates que je trouvais alors possibles. J'ai eu parfois des réveils douloureux. Alors, dans l'attente d'une motion de censure aboutie qui nous délivrerait, voici un nouveau casting 2022 pour un gouvernement de combat. Comme je n'ai pas demandé l'avis des intéressés, je cacherai l'identité de mes rares contacts personnels pour pas sombrer dans la gaffe comme certaines. Quant aux déjà chouchous de la politique, ils peuvent bien assumer ce coup de chapeau plein d'espoir, non? De toute façon, mon inexistence médiatique est leur meilleure garantie de discrétion. Alors, président, eh bien oui, Rachel Keke, présidente de la République, voix des opprimés, espoir des affamés, ce cri du peuple, oublié du pouvoir, l'espoir enfin, la peur des bourgeois, la démocratie qui revit, une femme s'est levée, colère immense, vague violente, force insolente, insubmersible. Et derrière elle, des millions suivront. Tremblay, Le Pen, Darmanin et Macron, Rachel est forte, Rachel est forte. Tremblay, Macron, Le Pen et Darmanin, la rue sera noire de jaune demain. Rachel, présidente, pour son courage, son expérience de la vie des travailleurs essentiels, pour son honnêteté, son intelligence constructive, son énergie, son charisme rassembleur. Et comme premier ministre ou comme première ministre, moi je verrais bien Marie-Monique Robin. Car en plus de l'écologie, on pourrait bien lui coller en même temps l'intérieur, la justice, l'agriculture, les affaires étrangères et la culture. Tout ça sur le dos de ce monument de courage, d'énergie, de science et d'intelligence créatrice et organisatrice. Elle a abordé avec passion tous ces domaines en allant au fond des choses. On en a déjà parlé et on reviendra sur sa personnalité hors norme. Mais tenir les rênes d'un gouvernement entier pour une personnalité pareille serait contre-productif, je pense. Comme on ne peut pas tout faire à la fois, alors laissons-la choisir ou se spécialiser dans une de ses missions vitales pour le pays et la planète. Où qu'elle s'installe, elle portera la révolution urgente, sans être accusée de cumul de pouvoir. Et puis, si vous avez d'autres idées pour Matignon, on espère vos suggestions. Et pour l'instant, on appellera cette grandissime dame à la transition écologique, domaine où le grand public l'attend surtout. Marie-Monique Robin, donc, à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, Pap Ndiaye, qui porte trop d'espoir pour rester la caution ligotée de Macron. J'imagine la transmutation du mammouth entre ses mains. Liberté, créativité, écoute. Et qui pourrait partager cette lourde tâche avec mon pote d'école normale, Daniel, qui, je le rappelle, connaît le mammouth de la maternelle à l'agrégation. Le mammouth et surtout les élèves et les étudiants, dont il sait mesurer les problèmes et les espoirs mieux que personne. depuis ce LEP du fin fond de l'Occitanie jusqu'à l'impressionnant lycée Pierre de Fermat. Et puis, la recherche qui a tant souffert et qui souffre depuis si longtemps. Bernard Laponche qui commença sa carrière avec une foi intacte dans le progrès. Au début des années 70, au centre nucléaire de Saclay, où il devint le plus passionné et désespéré des antinucléaires. Un des rares de ma génération a continué le combat pour nous tous. Il sait de quoi il parle. Et à l'agriculture, José Bové, bien sûr, à la fois économiste patenté et paysan expérimenté, leader rassembleur dans tous les combats vitaux de la liberté, pour le contenu de nos assiettes, pour notre environnement et notre survie. À la santé, moi j'y mettrais le grand Duduche dont je vous parlais en 2016, découvert à travers la rumeur admirative et les témoignages de ses patients un soir à la salle du Sénéchal. S'il ne veut pas ce que je crains, il aime trop la médecine et les malades. On pourrait espérer la gynéco-murétaine Françoise, médecin non pas généraliste, mais universel. Elle saura comment restaurer l'appareil dévasté par Castex et consorts. Et aux droits des femmes, j'espérais Françoise Vergès. On pourrait aussi y loger Fatima Ouassak, l'antiraciste écolo-féministe qui coche tout juste dans sa bio. Elle a organisé le Front des Mères, le réseau classe genre race. Elle fait partie d'Alternatiba, que l'on connaît si bien à Toulouse, et du CNNR, le Conseil national de la Nouvelle Révolution. Et à la culture, vous verriez qui ? À la culture, on est bien servi. Alors pourquoi pas partager avec tout le pays, avec tous les centres culturels, grands et petits, tous les théâtres, cinémas, cafés culturels, MJC, toutes les écoles et universités, et pas seulement les écoles d'art, toutes les assos de musicaux, de peintres, de photographes, de sculpteurs, de danseurs, de chanteurs, de remonteurs et remonteuses de morale et de créativité, urbi et orbi, nationaux et expats, métro et ultramarins. Que diriez-vous d'y mettre notre Juliette toulousaine, nationale et internationale, aux manettes, Juliette Noureddine, bien sûr, pour plonger à la fois dans l'histoire, dans l'humour et dans la sagesse.
dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédime en l'une ou l'autre sans racine, et lire parmi les éminentes celle qui me ferait frissonnante, parmi toutes celles qui sur s'ébattre, qui sur t'aimer, qui sur se battre, mes sœurs cinées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines. Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, mademoiselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colomb ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse, naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retirer pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Philippe Olivier. Voile d'or et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan. La Yourcenar, Sarah Bernard, ou la Teresa Simone de Beauvoir, une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christian Rochefort, ou Marceline Desbordes Valmore, les belles sans peur et sans marmaille, tout plus au fort de la mitraille, Sylvia Bataille. Brandissant l'espoir et la gouge, Olympe de Gouge, au salon rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Ancariotis, Boulatis, Angela Alberta Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les Lola Montes, Gina Manès, l'empoisonneuse Rosina Lucrèce. Enfin, je pour être sincère, du coup, pour les belles orangères, Yvette Kilmer, Claire Pataché, Girolle Giscane, Saint-Pierre. Mais Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat. En attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule ou que les anges me fassent la fête, permettez une ultime requête. Faites-la renaître, votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en malika malika ou marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en capotine, en lune, en gourgandine, en pitié même en Juliette Noureddin.
Au ministère du Travail, je verrais bien Isaac Goetz, un prof à l'École supérieure de commerce de Paris, auteur avec Brian Carney de l'ouvrage impitoyable et revitalisant « Liberté et compagnie », quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises. Et écoutez-moi ça, ça fait rêver. Voilà ce que nous racontent Isaac Goetz et Brian Carney. Un jour, au Royaume du Danemark, Lars Kolind est arrivé à la tête du groupe Oticon, qui était à l'époque, en 1988, leader européen de la fabrication des prothèses auditives. L'entreprise était menacée par la concurrence et par les évolutions technologiques, mais la direction freinait des quatre pattes pour prendre des mesures qui bouleverseraient son train-train. Alors, Kolind a étudié la question, et voilà comment il a modifié l'entreprise et comment il l'a redressée rapidement. Éléments clés qui valent d'être cités intégralement. Nous modifierons la conception des emplois pour qu'elle s'accorde mieux avec les talents de chacun. Chacun aura à accomplir plus d'une tâche, même s'il n'a pas les qualifications officielles pour en accomplir certaines. C'est la polyvalence de l'emploi. Nous renoncerons à la structure hiérarchique actuelle par département et nous la remplacerons par des projets. Tous les titres actuels disparaîtront. 95% de la paperasserie devra également disparaître. Nous mettrons en place un réseau informatique de pointe qui permettra à chacun d'entre nous de choisir librement où travailler tel ou tel jour. Nous encouragerons le dialogue oral et éviterons de nous adresser des notes de service par email, c'est plus sympa de se parler. Nous créerons un lieu de travail ouvert et stimulant, sans cloison ni séparation. Il y aura des plantes et des arbres dans des caisses à roulettes, 500 ou 1000, que nous déplacerons quand nous passerons d'un projet à un autre. Nous créerons le lieu de travail le plus exaltant et le plus créatif du pays. Il ne ressemblera pas du tout à un siège de société ordinaire. Il faudra que nous comprenions tous non seulement ce que nous faisons, mais aussi comment ce que nous faisons s'intègre dans la vision d'ensemble. Si tout le monde sait cela, nous aurons besoin de moins de direction et de contrôle conventionnels. Cela nous permettra de consacrer plus de temps à des tâches utiles aux clients. En résumé, nous ferons tous davantage ce que nous aimons faire et ce que nous savons faire. Nous nous débarrasserons de toutes les barrières et nous travaillerons comme une grande équipe. Cela nous rendra plus précieux, ce qui justifiera en retour un salaire plus élevé. Et Kolind décida de consacrer un peu de temps à la définition d'un ensemble de valeurs communes pour l'entreprise et de normes de management. Voici les trois premières. Les salariés veulent être traités comme des individus indépendants prêts à prendre leurs responsabilités. Les salariés veulent se développer à l'intérieur de leur emploi et faire de nouvelles expériences au sein de l'entreprise. Des tâches passionnantes et stimulantes sont plus importantes que le statut et les titres officiels. Les salariés souhaitent avoir plus de liberté possible, mais admettent la nécessité d'une organisation claire et structurée. Une autre histoire, tout à fait significative, est l'aventure de Davis, le loueur de véhicules. Avis à Chicago. Le patron à l'époque s'appelle Townsend. Il a compris qu'il fallait que le patron sache faire toutes les tâches qu'il demandait à ses employés. Alors comment il a fait? Eh bien, il s'est déguisé en employé avec la veste rouge qui identifie tous les acteurs, tous les salariés Avis, et avec un badge où il y avait marqué « stagiaire ». Et voilà ce que ça a donné. Ça n'a pas été facile. Les cadres logeaient au motel, ils suivaient des cours l'après-midi, passaient des tests tous les soirs, potassaient la nuit et louaient des voitures à de vrais clients toute la matinée, en arborant le badge « Je suis stagiaire ». Un matin, j'étais pour proposer des voitures en location, et un client s'est pointé au guichet. J'ai mis un moment à trouver les clés, à faire passer la fiche de contrôle de la voiture, à enregistrer la carte de crédit, sans cesser de sourire à tous ceux qui faisaient la queue pour qu'ils ne filent pas chez les concurrents. Alors le client a dit « Vous ne voulez pas vous dépêcher un peu? Je suis pressé. » J'ai répondu « Laissez-moi souffler, je suis stagiaire. » « Vous avez l'air tellement empoté et ignorant que ça m'étonnerait que vous réussissiez votre formation. » Et Taosen qui reprend. « Vous voulez savoir le pire ? » ai-je rétorqué. « Je suis le PDG de cette société. » Alors là, il m'a complètement pardonné et il a dit « Eh bien vous, au moins, vous vous bougez pour aller voir comment les choses se passent. Mon PDG à moi, il quitte jamais son bureau. » Ce programme de formation, destiné aux cadres, a transformé l'environnement au siège. Townsend et ses milliers de directeurs d'agence se sont ensuite efforcés d'identifier toutes les autres pratiques qui empêchaient les salariés de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a élaboré un long questionnaire qui abordait tous les points. Qu'est-ce qui vous a fait enrager aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a pris trop de temps? Qu'est-ce qui a provoqué des réclamations aujourd'hui? Y a-t-il eu des malentendus aujourd'hui? Et si oui, de quelle nature? Qu'est-ce qui coûte trop cher? Quelles ont été les sources de gaspillage? Qu'est-ce qui s'est révélé complètement idiot? Qu'est-ce qui vous a paru trop compliqué? Quelle tâche a exigé trop de monde ou trop d'opérations? Etc. etc. Il est facile de réclamer ces améliorations. Il n'est pas facile, mais indispensable, de faire preuve de rigueur dans leur application. Si votre entreprise n'est pas en mesure de supprimer toutes les pratiques qui empêchent le personnel de se développer et de s'autodiriger, les salariés la dénonceront et justifieront ainsi la médiocrité de leur performance. Au lieu d'être auto-motivés, ils feront de la résistance. La bonne nouvelle et que les leaders ne sont pas obligés d'abattre tous les obstacles et de résoudre tous les problèmes par eux-mêmes. Ils doivent couper les cordes qui empêchent le bateau d'avancer. Mais dès que les salariés constatent le changement, dès qu'ils voient que le bateau avance pour de bon, sans personne à la barre pour leur dire comment faire leur travail, les leaders naturels surgissent pour surmonter les nouveaux obstacles et relever les inévitables défis. Et le livre d'Isaac Getz et de Brian Carney est plein d'histoires de ce genre qui donneraient de l'espoir dans la libre entreprise. S'il faut séparer la finance et l'économie, ce qui n'est pas certain, à la finance, on mettrait Thomas Piketty, bien entendu. Quelques citations de Thomas Piketty, bien sûr. Je suis maintenant convaincu qu'il nous faut réfléchir à un nouveau dépassement du capitalisme, une nouvelle forme de socialisme participatif et décentralisé, fédéral et démocratique, écologique, métissé et féministe. La principale force poussant à réduire les inégalités a toujours été la diffusion des connaissances et de l'éducation. Le plus gros abandon de souveraineté, c'est celui de la souveraineté monétaire. Et bien sûr, c'est pourquoi en 1945, De Gaulle a inventé le franc CFA, ligotant du même coup la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, etc. Oui, le Burkina Faso, ça ne plaît pas. Burkina, en 1945, d'accord. Mais le franc CFA l'a ligoté à l'avance. Et à l'économie, une économiste atterrée pour un avenir durable. On a un peu le choix, hein. Dominique Méda a fait ses preuves et Anna Betnik, qui s'est spécialisée dans l'étude alarmante de l'extractivisme, l'une et l'autre sauront choisir la voie idéale de la transformation économique et écologique. Et Anna Betnik nous précise. L'énergie, pourquoi et pour qui ? Au Brésil, un groupe d'habitants autochtones, ce qui n'est pas indifférent, opposé aux extractions en vue de production électrique, ce groupe pose la question électricité, énergie, pourquoi et pour qui ? Et la réponse est qu'elle n'est pas pour le peuple. 665 grands consommateurs, l'industrie de cellulose, d'aluminium, de fer, d'acier et les grands supermarchés accaparent 30% de l'électricité produite, payée au prix proche du coût de revient, 3 centimes de réal le kilowatt-heure. Pour Vale et Alcoa en 2013, tandis que la population se voit appliquer l'un des plus hauts tarifs de l'électricité au monde, jusqu'à 45 centimes de réal le kilowattheure. En Argentine, continue Anna Betnik, nous ne mangeons pas de batterie, assurent par exemple les Colas de la Punta, aux entreprises qui projettent de transformer les Salares, leur lieu de vie, en mine d'extraction de lithium, ce métal au grand potentiel électrochimique utilisé pour fabriquer des batteries de téléphones portables, d'ordinateurs, de caméscopes et autres appareils photo, mais aussi de voitures électriques. Lithium considéré comme stratégique pour l'électrification du parc automobile mondial et pour le stockage de l'électricité produite à partir de sources intermittentes, dont le photovoltaïque. Deux éléments de premier plan des technologies à bas carbone, centrales pour la fameuse croissance verte. Les Salares chiliens, boliviens et argentins, connus comme le triangle du lithium, concentrent près de 60% des ressources identifiées. Sans cet or gris, l'usine de Blue Solution, filiale de Bolloré, fabriquant en Bretagne les batteries des Blue Cars, et employant près de 200 personnes. Cette usine fermerait probablement ses portes. Près d'un millier de brevets déposés par l'entreprise tomberaient à l'eau. Paris se viderait de ses autolib, les Blue Cars en libre service, qui verdissent le bilan de la mairie et représentent sans doute une certaine utilité pour les conducteurs occasionnels. Thank you. Mais les habitants des Salares ne sont pas nombreux à concevoir leur qualité de vie en nombre de véhicules électriques ou de véhicules tout court. Ce que les dirigeants des communautés autochtones des Salinas Grandes en Argentine disent aux entreprises, parmi lesquelles les Françaises Bolloré et Eramet, c'est qu'en consommant d'immenses quantités d'eau, l'exploitation du lithium détruira le fragile équilibre du salar, privera 33 communautés, 3000 personnes, de leurs sources de subsistance, exploitation artisanale du sel, élevage de brebis, de chèvres et de lamas, culture vivrière de fèves, de pois, de pommes de terre, et mettra fin à leurs coutumes et croyances, en résumé à toute leur vie. Deux ordres de priorité incompatibles qui s'excluent mutuellement. 67% de l'or extrait sert par exemple à fabriquer des bijoux, pour lesquels on creuse de gigantesques cratères, pour lesquels on traite le minerai au cyanure, on accapare l'eau des zones arides, on pollue les sources d'eau, parfois irrémédiablement. Ceux qui refusent d'être sacrifiés pour le sourire de la mariée ou la retraite paisible d'un bijoutier à Anvers affirment que l'eau vaut plus que l'or. Peut-on en conscience contester leur point de vue? Le capitalisme a besoin de besoins. En favorisant le désir de richesse et le commerce, on pouvait, croyait-on, mettre fin aux interminables guerres que se livraient les princes pour le pouvoir. Or, non seulement les conflits pour le pouvoir n'ont pas cessé et l'expansion du commerce est devenue une raison honorable de faire la guerre, mais l'ancien mal des princes s'est métamorphosé en un droit pour tous, celui d'accroître son pouvoir d'achat. L'individu sert le système industriel en consommant ses produits. Devenue une discipline à part entière dans les années 60, le marketing plonge ses racines dans l'après-Première Guerre mondiale, période durant laquelle les politiques, économistes, industriels et publicitaires états-uniens s'efforcent de créer des débouchés pour la surproduction des usines tayloriennes. La société de consommation de masse, résultant de leurs efforts, sera ensuite exportée en Europe pour devenir le ciment du compromis social favorisé par le plan Marshall. Le système des besoins et le produit du système de production, constatait en 1970 Jean Baudrillard. Le philosophe et sociologue considérait le dressage à la consommation systématique et organisée comme l'équivalent et le prolongement du grand dressage des populations rurales au travail industriel. D'abord, en augmentant les salaires, le compromis fordiste a permis d'élargir le marché, produire des voitures pour les acheter soi-même, tout en améliorant la productivité. Puis, le crédit dressage. Cet impératif de production et de consommation qui est celui du système passe dans la mentalité et l'idéologie quotidienne. C'est là l'immense astuce. Il y passe sous sa forme inverse, sous forme de libération des besoins, d'épanouissement de l'individu, de jouissance et d'abondance, etc. Thank you. En 2016, je proposais à la justice Roland Agray. Pour ce qu'il a souffert avec dignité d'une erreur judiciaire épouvantable et de l'inhumanité de notre système carcéral. Je crois qu'il était venu à une soirée Terra Nova en 2016, Roland Agray, qui s'était coupé deux doigts, qu'il avait envoyé place Vendôme pour protester contre son incarcération. Mais il est peut-être bien âgé maintenant pour accepter, même en rêve, une charge ministérielle. On verrait plutôt alors l'avocat Arié Halimi, plus jeune et au cœur de l'actualité. Défenseur spécialiste des victimes de l'injustice gouvernementale, partisane, servile et complice des ordres de l'État. Il est, on le sait, l'avocat de la famille de Rémi Fraide. Et à l'industrie, qui sera décroissante ou ne sera pas. François Ruffin, bien sûr, qui l'aura pas volé. À l'intérieur, comme on dit pudiquement. Mathieu Rigouste, évidemment. Et voilà quelques idées de Mathieu Rigouste. La peur constitue un outil politique fondamental pour les classes dominantes. C'est une technique de gouvernement, une machine de légitimation sur la chaîne de production du contrôle. Le mot « police » à lui seul contraint chaque fois qu'il est prononcé et par sa seule existence. Toute la police est violence, jusque dans ses regards et ses silences. En septembre 1995, la revue Historique des armées a consacré un numéro entier à la guerre d'Algérie. Pour fournir des outils permettant d'analyser les attentats terroristes qui frappaient alors la France, elle publiait pour la première fois la Directive générale sur la guerre subversive du général Massu pour la bataille d'Alger. Et en septembre 1998, le colonel Frédéric Guelton, un spécialiste du renseignement, publiait dans Défense un article intitulé « Une école de guerre psychologique, Algérie 1956-1961 ». La revue présentait l'article en rappelant que l'armée française redécouvrait tardivement l'action psychologique en Bosnie, tandis que les Américains, ardents pratiquants des PSYOPs, Psychological Operation, considéraient les Français comme les maîtres en ce domaine. Depuis la guerre d'Algérie. La transformation de la violence policière est liée au développement d'un marché mondial de la coercition. Ce phénomène est porté par de puissants complexes industriels, médiatiques et politico-financiers qui tirent profit de la prolifération des guerres policières en vendant des doctrines, des techniques, des équipements et des armes de coercition. Ces marchandises sont expérimentées, rénovées, et leur excellence est mise en scène dans les laboratoires intérieurs des grandes puissances impérialistes. Elles peuvent ensuite être vendues aux États et aux entreprises du monde entier. La construction de la figure de l'ennemi intérieur postcolonial est en effet liée à la prise de concurrence du caractère définitif de l'installation des immigrés postcoloniaux sur le territoire et à l'institution de la catégorie des jeunes issus de l'immigration qui a permis de reconstituer une dissociation entre vrais et faux français sur le principe de la structure coloniale. Les idéologues sécuritaires remplissent en définitive une fonction essentielle du maintien de l'ordre, diviser et opposer les résistances, criminaliser toute forme d'indiscipline et d'insoumission, et égarer les dominés loin des combats pour l'émancipation collective. Dans les quartiers populaires, les prisons, dans les charters, les camps, les campements et dans les territoires colonisés par l'État français, le socio-apartheid est attaqué par celles et ceux qu'il est censé soumettre et bannir. Des formes d'auto-organisation et d'auto-défense, des résistances collectives, des ripostes et des contre-attaques s'y confrontent à la violence d'État. La nouvelle phase d'expansion de l'impérialisme implique un renforcement féroce de cet apartheid et fournit de nouveaux champs d'expansion à l'industrie de la coercition. Dans la plupart des grandes puissances impérialistes, des unités de police spécialisées ont été conçues au cours des années 70 pour maintenir la ségrégation raciste et contenir l'indiscipline populaire. L'histoire de ces commandos policiers retrace la systématisation de la férocité comme technique de gouvernement et comme secteur de marché. En France, la brigade anticriminalité, la BAC, représente à la fois une technologie de bannissement et de répression, une rationalisation industrielle de la coercition et l'un des rouages les plus sollicités d'une mécanique poussée à ses limites. À la ville et au logement, on peut rappeler Cécile Duflot. Elle connaît la chanson. Et aux armées, là je cale, hein, je manque de relations. Alors, si on demandait à Didier Porte, je ne vois que lui qui soit à la hauteur. Chiche! Thank you. Voilà ce que je peux vous proposer. Maintenant, question parité, j'ai fait ce que j'ai pu. Si vous avez d'autres idées, envoyez vos suggestions. Mais dépêchez-vous, les motions de censure vont pas tarder à la rentrée. Je l'espère. À bientôt, vous tous. Prenez soin de vous.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.